Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi et des Poussières, nouvelle émission que je vous propose sur Radio Barthas en direct les lundis, mardis et mercredis à 12h15 et en rediffusion à 21h. Alors l'idée de cette nouvelle émission, c'est de parler de ce qui se passe ici à Florac, ici en Lozère, de relayer les initiatives locales, de donner la parole à toutes celles et ceux qui ont des choses à partager, celles et ceux qui ont envie de venir raconter ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, ce qu'ils organisent. Et ça n'empêchera pas de parler parfois de ce qu'il se passe ailleurs, un peu plus loin, ou de parler pour ne rien dire, de parler du temps qu'il fait et qu'il fera, histoire de passer une petite heure ensemble via les ondes de Radio Barthas. Léo est en studio avec moi pour assurer la dimension technique de cette émission. Salut Léo.
Salut Raphaël, ça prend forme de jour en jour, elle va être superbe cette émission. Elle est déjà.
Merci, merci. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet va revenir au long de cette émission, mais pour commencer...
Asservie, humiliée des femmes, achetée, vendue, violée. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Voilà, maintenant que ça c'est dit, je peux accueillir Gérald Rigaud qui vient d'entrer dans ce studio. Salut Gérald.
Salut Raphaël.
Alors, comment te présenter? Tu es comédien, mais tu es surtout connu pour ton personnage de crieur public.
Ma fonction, oui.
Ta fonction. Alors moi, j'ai fait ta connaissance pendant la dernière fête de la soupe que tu as donc publiquement criée. Et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, donc bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors tu es là ce midi pour nous parler d'autres grandes festivités qui se préparent et dont tu es un peu l'instigateur. Il s'agit d'un projet de jumelage.
Tout à fait, un projet de jumelage entre notre événement occitan labellisé Total Festum, label régional au Pont de Montvert, et l'événement des rencontres chantées du Galaison à Saint-Martin-de-Boubeau, toujours en Lozère et dans la communauté de communes du Pont de Montvert, mais malgré que ça soit à 1h45 de route. Et les rencontres chantées fêteront leurs 20 ans l'année prochaine. Et on a décidé de faire un jumelage pour réinventer des rituels.
Réinventer des rituels, créer des rencontres entre les habitants des deux communautés villageoises. Et en fait, c'est aussi un peu réinventer des raisons de faire la fête ensemble. Moi, je te connais peu, mais je crois comprendre que la fête, elle occupe une place très importante dans ta vie.
Oh.
Qu'est-ce que c'est la fête pour toi?
Ah, pour moi, la fête, c'est pas du loisir. C'est beaucoup plus profond et c'est pas superficiel du tout. Et c'est l'occasion de mélanger les gens, de s'extravertir, mais de se dépasser, en fait, de dépasser notre individualisme, dépasser notre train-train quotidien et dépenser, en fait, dépenser de l'énergie, donner pour recevoir. Enfin, il y a une forme de don dans la fête qui est aussi lâcher des choses de soi pour le mettre en commun et nourrir le commun.
Donc c'est ce qui permet le mieux la rencontre entre les gens, tu dirais?
Oui, à la base et au-delà de ça, même donner du sens au commun et à vivre ensemble.
Et alors pour ce projet de jumelage, tu m'expliquais hier quand on en parlait au téléphone que vous allez vous baser aussi beaucoup sur les fêtes calendaires. Alors les fêtes calendaires, c'est les fêtes qui traduisent le rythme des saisons qui existent depuis des temps immémoriaux. Donc c'est les solstices, les équinoxes par exemple. Et c'est des fêtes qui rendaient traditionnellement hommage à l'abondance, à la fécondité des récoltes. Et pourquoi est-ce que pour toi c'est important de se caler sur ces fêtes-là très anciennes?
Eh bien, alors je reviendrai comme en plus c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Je reviendrai sur le mythe de la vieille morte. Mais avant tout, effectivement, la base, c'est les fêtes calendaires. Et rappelle-moi ta question.
Oui, pourquoi est-ce que c'était important de se caler sur les fêtes calendaires? Et de quelle façon, en fait, avec cet événement, vous allez aussi vous caler sur ces fêtes-là?
Oui, alors, parce que là, tu parlais de l'abondance des récoltes et tout ça, et ça, ça serait plutôt celle du solstice du mois de juin, qui sera donc le 20 juin au pont de Montvert. On va faire un grand feu pour célébrer l'apogée de la lumière. Mais après, dans les fêtes calendaires, c'est tout un cycle qui suit justement le chemin du soleil et de la nature. Et par exemple, là, on vient de passer et on est dans une fin d'année où on va vers le plus obscur de l'année et où généralement, c'est là qu'on célèbre aussi les morts. Alors, Halloween a pris une place démesurée. Bon, passons avec son horreur capitalistique et consommatrice. Mais la tradition, c'est aussi de quand on rentre dans le profond de l'hiver, et on va commémorer aussi les morts, ce qui nous manque, et puis laisser après la place à l'hiver qui laisse reposer les choses. Et derrière la sortie de l'hiver, c'est carnaval avec toute son exubérance où là on renverse tous les rôles, c'est la folie de carnaval, mais qui annonce le printemps. Et puis, on arrive normalement vers la fin de la Saint-Jean. Enfin bon, la Saint-Jean, voilà, c'est les fêtes patronales qui ont été reprises par les catholiques, pas par les protestants, qui sont... Passons.
Ça, c'est le 21 juin.
Ça serait autour... La Saint-Jean, c'est le 24 juin, mais le solstice, donc c'est 20-21. Et il se trouve que cette année, ça tombe très très bien, puisque ça sera un samedi, le 20 juin, et c'est le samedi où on va célébrer, où on va faire le grand feu au pont de Montvert, et la veille, on fera notre spectacle sur la vieille morte.
Alors, la vieille morte, justement, on va en parler, parce que, donc, tu le disais, l'idée de ce projet de jumelage, c'est de réinventer des rituels et aussi de continuer de faire vivre ou de réinventer des légendes très anciennes. Donc, toi, tu proposes de travailler donc, sur cette légende de la vieille. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire? Et il me semble en tout cas que cette vieille, en effet, comme tu le disais, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, elle pourrait en être un symbole.
Tout à fait. Alors, l'idée ne vient pas de moi, mais pour le coup, ça vient vraiment des rencontres chantées du Galaison qui sont attachées à la légende de la vieille morte, parce que là-bas, à Saint-Martin-de-Boubeau, il y a une légende toponymique, c'est-à-dire vraiment ancrée dans les lieux. C'est parce que la montagne entre Saint-Martin-de-Boubeau et la vallée française, Saint-Martin-de-Lensusque, c'est la montagne de la vieille morte. Et la légende, le mythe, dit que il y avait une femme qui était considérée comme trop vieille par la communauté pour avoir un enfant. Et elle a quand même eu un enfant. Et l'histoire dit qu'une sorcière est venue lui jeter un sort et la punir. Et en l'excommuniant, donc en lui disant de prendre la route, de partir de la communauté, avec son enfant, en l'occurrence son chien, son âne. Et sa punition, c'est de porter une énorme pierre sur son dos. Alors, au premier abord, la légende est un peu morbide. Elle part, et puis là, son jeune enfant, et elle part dans l'hiver, son jeune enfant meurt, et ça s'appelle le plan de fond mort, au-dessus de Saint-Martin-de-Lensusque.
C'est-à-dire que le lieu de son périple, à l'endroit où son enfant est mort, porte ce nom aujourd'hui.
Porte toujours son nom. Après, il y a l'endroit où le chien meurt, et c'est le Cross del Chi. Donc du chien. Ensuite, en passant le gardon de là-bas, l'âne se noie et meurt. Et là, ça devient le pont de Négaz. Et puis, la vieille va partir toute seule et arriver en haut de la montagne. C'est là qu'elle va mourir. Et elle va planter, juste avant de mourir, sa pierre, qui est encore là. C'est une sorte de menhir en haut de la montagne. Et il reste donc ce menhir. Et c'est la montagne de la vieille morte. Alors, on parle de violences faites aux femmes, donc là, voilà, ça parle d'une excommunion, donc ça vient pas de moi, ça vient de Clément Gauthier, Samuel Bouchet, des gens qui sont vraiment érudits autour des mythes et qui sont du côté de Saint-Martin-de-Boubeau, et on en parlait avant-hier là au temple du pont de Montvert, où j'ai fait une petite réunion avec les villageois, et Clément Gauthier disait, en fait, c'est comme si la communauté va punir cette vieille, et en fait... empêcher le cycle naturelle, parce que cette vieille, ça pourrait être en fait la mère nature ou la nature en soi. Et voilà, la bêtise humaine va essayer de rompre les cycles et punir cette vieille et pour arrêter le cycle de la nature. Mais le cycle de la nature, c'est la mort et la renaissance sans cesse et tout ça. Et après, il y a d'autres légendes qui parlent de la vieille et je vais en parler maintenant. En fait, c'est là où on... La figure de la vieille nous rassemble avec le pont de Montvert, c'est qu'en fait il y a un historien de Malaval, les Bondons, qui a fait toute une recherche sur tous les lieux qui sont nommés autour de la vieille en Lozère. Et il y en a du côté du Causse, et il y en a aux alentours de Florac, là, énormément des lieux dits. Et en fait, sa théorie, c'est que c'est des lieux qui à chaque fois voient les puèges des Bondons. Donc ces deux mamelles là, qui seraient les seins de cette vieille, avec l'Esquindaz, la montagne, qui serait son ventre en sein. Et donc sa théorie, c'est qu'il y aurait eu un culte pré-chrétien, le culte pré-chrétien autour des sociétés pastorales. Et c'était autour de cette montagne qui représentait en fait, on pourrait dire la Pachamama, la mère nature, cette vieille, c'est voilà, l'abondance, la fertilité, et il vouait un culte, et selon lui, ça serait pour ça que les menhirs des Bondons sont aussi développés. On est quand même le deuxième site après Carnac en termes de dolmen et tout ça. Et donc voilà, c'est lié à la vieille. Et c'est pour ça que le pont de Montvert et Saint-Martin-de-Boubeau, il y a un jumelage
naturel.
Naturel et millénaire.
Et tu m'en as parlé hier au téléphone de cet historien que tu cites qui s'appelle Jean Fossard. Mmh. Donc lui, il fait des recherches, je me suis renseignée aussi un peu sur lui, depuis plus de 25 ans sur cette figure mythologique. Et en fait, je suis allée voir sur son site internet, d'ailleurs je vous conseille d'aller faire un tour sur son site. Ça s'appelle ds-mer.com et c'est un petit bijou de la page HTML d'une autre époque, c'est assez... assez extraordinaire. Et en fait, il raconte que cette figure mythologique de la vieille, on la retrouve dans plusieurs pays d'Europe, du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient aussi. Voilà. Et il a écrit un livre en 1996 qui s'appelle « Les secrets des menhirs, Lozère, royaume de la vieille ». Est-ce que tu l'as rencontré, cet historien ?
On ne l'a pas encore rencontré. On a essayé d'y aller là parce que Sam et Clément étaient là dimanche pour ma petite forme hybride au temple du pont de Montvert. Et puis, on s'est dit qu'il était trop tard. Mais on n'arrive pas à le joindre au téléphone. On ne l'a pas encore rencontré. Il fait des conférences, mais ça viendra. Et en tout cas, tu parlais de ce culte de la vieille qui est un peu de partout sur Terre. Et Clément... va nous apprendre un chant le 6 décembre qui est la Ibista Mamia, qui est un peu la seule chanson de trance collectée sur le mont Lozère dans les années 70 par des ethno-anthropologues fameux qui ont fait tout un recueil sur les mythes, légendes, chansons et danses du mont Lozère et de Cévennes. Et cette chanson, la Ibista Mamia, elle parle à un moment, elle dit que la Mia est coiffée à la grecque. Et Clément, qui est un érudit, en fait, c'est un égyptologue reconverti, il a fait des recherches et il y a une ethnie en Grèce qui voue un culte à cette vieille et il y a une histoire où la vieille montre son derrière et c'est une légende qu'on retrouve dans plein de patois, de cultures vraiment ancestrales et traditionnelles. Et donc, il fait un pont, il dit, en fait, il y aurait... C'est improbable que dans la chanson, ça parle de coiffer à la grecque. Et donc là, on commence à toucher des mystères insondables où il y aurait un lien entre la Grèce antique et les mythes de la Grèce antique et notre montagne des Bondons.
Donc les liens dépassent ceux entre le pont de Montvert et Saint-Martin-de-Boubeau. Ils vont très, très, très loin. Et donc, tu évoquais ce qui s'est passé dimanche dernier parce que donc voilà, le jumelage qui se prépare, en fait, il va être un peu préparé par tout un certain nombre de festivités, de rencontres. Et donc, il y en a eu une dimanche dernier, donc le 23 novembre, où tu as convoqué les habitants du pont de Montvert au temple pour un spectacle que tu décrivais entre le prêche et la performance. Et donc, l'idée de toutes ces rencontres-là, c'est un peu pour motiver les gens pour qu'ils participent à ce projet de jumelage, c'est ça ?
Oui, en fait, l'événement Total Festum au pont de Montvert, qui je crois que ça fait 18 ans qu'il existe, est un peu en perte de vitesse parce que les organisateurs vieillissent. Et puis, le patois s'éteint petit à petit, l'occitan, la langue s'éteint. Et le Covid et l'individualisme, et c'est ça, tout ça périclite un petit peu. Et du coup, là, moi, ça s'est comme imposé à moi. Il fallait que je mette les mains à la pâte pour reprendre un peu cet événement ou redynamiser. Et ça se fait pas tout seul. Et donc je me suis dit, pour mobiliser les gens, déjà, on va faire une fête au moment de l'hiver pour planter des graines là, au moment dans le sol pas encore tout à fait gelé, et pour que ça ait le temps de maturer en terre et pour germer au printemps et éclore au moment du 20 juin. Donc le 6 décembre, c'était le grand bal, mais pour avoir une chance d'avoir les anciens, de mobiliser les gens du comité des fêtes qui sont pas forcément avec les fêtes des néo, enfin vous voyez, enfin, tous ces milieux qui se croisent pas toujours, je me suis dit, si je propose quelque chose au temple, ça ouvre un peu le cercle des événements culturels habituels. Et j'ai réussi à mobiliser 40 personnes dimanche, ce qui était quand même, avec le temps qu'il faisait et tout ça, c'était une vraie réussite.
Bravo.
Et il y avait toutes les générations qui étaient là, et c'était très chouette. Et on a parlé, ça a chanté, puisqu'il y avait Sam et Clément qui ont chanté des chansons. J'ai parlé, je me suis présenté un peu, parlé de mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé là, et pourquoi, de par mon attachement profond à la fête populaire et à la culture populaire. Pas la culture avec un grand cul qui arrive par le haut et qui nous écrase un peu, pauvre spectateur devant les formes magnifiques, mais vraiment la culture qui part du bas vers le haut comme les poireaux, qu'on partage ensemble, donc chanter ensemble, danser ensemble, la fête c'est nous qui la faisons et la culture c'est nous qui devons la faire. Et donc on a beaucoup parlé de ça, on a parlé des fêtes calendaires. Et les gens qui étaient là ont été très, très enthousiastes et seront là le 6 et vont nous faire des soupes et des desserts pour le banquet chanté.
Voilà, parce que donc le 6 décembre, c'est le prochain rendez-vous, donc c'est le grand bal, le bal de l'avenir. Mmh. Et donc ça commence à 17h sur le pont du pont de Montvert.
Oui.
Je me suis dit qu'il faudrait d'ailleurs fabriquer un petit pont qu'on pourra poser sur le pont pour pouvoir dire le pont du pont de Montvert et plus, encore plus peut-être. Alors qu'est-ce que ce sera le programme donc le 6 décembre ?
Eh bien, j'ai convoqué ce 6 décembre vraiment tous mes amis du milieu occitan. Donc il y aura des représentants de la fête du pois chiche que je vénère et que j'anime depuis 13 ans. Mais vraiment, pour moi, aller voir la fête du pois chiche, c'est magnifique.
J'en ai beaucoup entendu parler aussi.
Donc il y aura des gens de la fête du pois chiche, il y aura des gens bien sûr de Saint-Martin-de-Boubeau, il y a des gens d'un carnaval autonome du côté de Roanne. Et il y aura Anaïs Vaillant, qui est une ethno-musico-anthropologue, qui joue aussi dans Poplité, passons, mais c'est un groupe féminin qui jouera début avril au pont de Montvert. Et Anaïs Vaillant est un peu spécialiste des contre-cultures carnavalesques et des rituels festifs. Et elle m'a proposé de faire... On voulait que ça tchatche et qu'on réfléchisse, qu'on mette du sens des mots. Et puis on s'est dit, ouais, mais on va pas mettre les gens dans une salle autour d'une table. Donc elle m'a proposé une table ronde itinérante sans table, au flambeau. Donc on va partir du pont de Montvert. Il y aura des flambeaux, il y aura des artifices parce que on a un maître artificier au pont de Montvert qui est l'organisateur du grand feu du 20 juin, du solstice. Et on va partir, on va se remémorer des choses qui sont passées dans le village anciennement. Bon, je vous passe les détails, venez le 6. Et on va faire une grosse étape au temple dans cette déambulation. On va monter, il y aura des apparitions aux fenêtres avec des chants, des textes qui vont se faire. On va s'arrêter au temple pendant un moment. Et puis après, on va arriver à 19h à la salle polyvalente du pont de Montvert. Et là, c'est le banquet chanté. Sanglier, que ça y est, les amis chasseurs nous ont déjà tués. On fera une grosse daube. Il y aura bien sûr un plat végétarien. Il y aura des soupes faites par les habitants, des desserts et tout ça. Et pendant ce banquet, ça va chanter. Il y a les gens du pois chiche qui vont chanter. Il y a le chœur cor galézouninque, donc l'espèce de chorale, mais c'est le chœur du galaison qui va chanter. Il y a le chœur aussi du pont de Montvert. Et il y a plein d'invités, vraiment. Il y a plein d'invités surprises. Et aussi, n'importe qui est invité à pousser la chansonnette, et pas forcément en occitan. On ouvre les portes, moi j'espère pouvoir chanter la maman des poissons de Bobby Lapointe que j'adore. Et puis 21h le bal, et donc c'est pas un bal avec un groupe défini, un groupe tout fait, mais c'est bien des individualités que j'adore. C'est tous des super musiciens, musiciennes. Et chacune, je leur ai proposé, je leur ai dit, est-ce que ça te dirait le 6 décembre de venir faire un bal avec les 5 autres, là, sans répétition, Ah ouais, et ils ont tous été à fond en disant « Mais oui, bien sûr, on a tout un répertoire commun, mais ça va être génial. » Et donc à la base, ils sont cinq, ils sont cinq, et on sait déjà qu'il y en aura au moins cinq en plus. Et bon, voilà, ça va être un bal vraiment qui va brasser. Et alors, il y aura de la matière pour les danseurs. Hein, les danseurs, les danseuses venaient nombreuses, heureuses.
Heureuses.
Et il y aura aussi des petites formes à déconstruire, des chants à répondre qui se dansent aussi. On va essayer de. Parce que voilà, c'est le bal de la. Donc apostrophe venir, et on essaye de proposer des formes qui donnent des billes au public de ce 6 décembre pour se dire « Ah oui, mais moi aussi je peux chanter, ah mais j'ai envie de me réapproprier » et de leur donner envie de rentrer avec nous dans un processus de création au printemps où on aura au moins deux week-ends, un au Pont de Montvert, un à Saint-Martin-de-Boubeau, où on va rassembler les gens, chanter, réinventer des chants, réinventer des danses et écrire un peu la forme de ce mythe de la vieille qui sera jouée au Pont de Montvert le vendredi 19 juin et à Saint-Martin-de-Boubeau le vendredi d'après.
Mais quel programme, bravo, c'est extraordinaire, c'est vivement tout ça. Ça a l'air vraiment génial, riche et foisonnant et hyper inspirant, bravo. Avant de se quitter, on va écouter un peu de musique. Alors tu voulais qu'on passe le morceau que tu as cité qui sera votre hymne, oui. La Vista Mamia. Oui. On l'a cherché, toi et moi, en ligne, on l'a pas trouvé.
Non.
Donc il faudra enregistrer Clément Gauthier, c'est ça qui le chantera le 6 décembre. Mais en tout cas, il a été interprété notamment par le... Vas-y, tu veux dire quelque chose à ce
moment-là ? Oui, non, juste pour dire par rapport à ce chant qui est donc un chant de trance, le seul chant de trance collecté sur le Mont-Lozère. On va essayer de vraiment toucher la trance, on verra bien, mais donc vers la fin du bal, on va apprendre le chant au moment du banquet chanté, et vers la fin du bal, on va commencer à le chanter, et là, il y a une vielle à roue qui va commencer à venir par-dessus, on va mettre des couches et des couches, et Simon, notre DJ local de l'Aubaret, au Pont de Montvert, Simon va rajouter de la musique électronique pour tenter une forme, voilà, hybride, où on va essayer une trance qui plaise à tout le monde, quoi.
Ok, super. En tout cas, ce chant, il avait été interprété notamment par le collectif Tornamai, c'est ça. Donc, pour compenser le fait qu'on ne l'ait pas trouvé, qu'on ne puisse pas vous le faire entendre tout de suite, on écoute un autre morceau de Tornamai. Ça s'appelle « Ai Bolegi » et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une bourrée à deux temps. Ai me sembla que dormet, sai bolegat, sa que la chamba, sai me sembla que dormet, sai bolegat, ai me sembla que dormet, sai bolegat, sa que la chamba, sai me sembla que dormet, sai bolegat, ai bolegi, ai bolega, ai bolegat, sa que la chamba, sai bolegi, ai bolega, ai bolegat, ai bolegi, ai bolega, ai bolegat, sa que la chamba, sai bolegi, ai bolega. Ai bulegat bum bum cade peccade darum ai bulegat che lo stammo scode peccade darum ai bulegat bum bum cade peccade darum ai bulegat che lo stammo scode peccade darum ai bulegat bum bum ai bulegi ai bulega ai bulegat che lo stammo sai bulegi ai bulega ai bulegat bum bum ai bulegi ai bulega ai bulegat che lo stammo sai bulegi ai bulegat, ai bulegat, bum. We'll be right back.
Midi et des poussières.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, il est 12h41. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça, Gérald.
Ben, merci de l'invitation. Ouais.
Et donc, on se voit le 6 au Pont de Montvert.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Et nous, on continue cette émission Midi et des poussières avec le rendez-vous du jour. Et donc, en ce jour de lutte contre les violences faites aux femmes, le rendez-vous du jour que j'ai choisi, c'est la projection, donc ce mardi 25 novembre, à Mende, du film documentaire Delphine et Carole Insoumuses, réalisé par Callisto McNulty en 2021. Ce film retrace, au travers d'images d'archives, la rencontre entre l'actrice Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. Carole Roussopoulos, elle a été la toute première femme et la deuxième personne en France après Jean-Luc Godard à se saisir du premier enregistreur vidéo à batterie autonome, le porte-à-pack de Sony. Et caméra au point, elle va aller à la rencontre de ceux qui n'avaient pas droit à l'image ou à la parole télévisuelle à l'époque, les ouvriers, les immigrés, les prostituées, les homosexuels. Et en 1974, Carole, elle va initier la comédienne et militante féministe Delphine Seyrig à la vidéo et ensemble, elles vont fonder l'association Les Insoumuses qui sera dédiée à la création vidéo militante. Le film Delphine et Carole Insoumuses, réalisé par Callisto McNulty, qui n'est autre que la petite fille de Carole Roussopoulos, nous conduit au cœur du féminisme des années 70 et des actions de ces insoumuses qui vont s'engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d'humour. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Féminin, féminine, qui est propre à la femme. Grâce féminine, charme féminin.
Comme je suis une femme, j'ai maintenant envie de faire des choses qui m'importent énormément. J'admire beaucoup les mouvements de femmes actuelles qui cherchent à sortir de la situation dans laquelle elles sont, aussi bien au point de vue de leur travail, de leur salaire. Et en même temps d'une autre forme d'oppression qui est l'image qu'on veut avoir d'elle, qu'elle se sent obligée d'avoir d'elle-même. À présent, on a toujours vu les femmes finalement telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes.
Il m'a dit, il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir.
Très vite, Delphine avait compris l'utilisation subversive de la vidéo.
Les hommes ne leur laissaient pas la parole. Dès qu'elles étaient dans une boîte, dans ce pouvoir de la télévision, les gens se taisaient et les écoutaient.
On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps.
Et voilà, on est devenues copines. C'était une période d'une créativité intense.
Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché.
Si on est féministe et qu'on est actrice, on cesse pratiquement de jouer si on ne veut accepter que des choses qui donnent de la femme une image féministe. On cesse d'être actrice parce que ça n'existe pas.
Il y a énormément de femmes qui ont bousillé leur carrière en prenant des positions ouvertement féministes, bien sûr.
Tout va très bien, madame la ministre, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la ministre, tout va très bien, tout va très bien.
Ah là là, la voix de Delphine Seyrig. Delphine et Carole Insoumuses, documentaire de Callisto McNulty, c'est ce soir à 20h30 au cinéma Le Trianon à Mende, une projection proposée en partenariat avec le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en écho avec le rassemblement contre les mortes du patriarcat porté par le Planning Familial 48. La projection est gratuite sur réservation auprès de l'Office de tourisme de Mende.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif Égalité Femmes-Hommes 48 a publié un communiqué qu'on a eu envie de vous lire. Léo, à toi l'honneur.
Ces femmes tuées parce que femmes ne sont pas que des chiffres. Toutefois, ceux-ci sont parlants. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2024, le nombre de féminicides par conjoint ou ex-conjoint est de 107, soit une hausse de 11% par rapport à 2023.
Concernant les victimes, 47% des femmes avaient signalé ces violences antérieures aux forces de sécurité intérieure et parmi elles, 81% avaient déposé une plainte antérieure. Une des victimes bénéficiait d'un dispositif téléphone grave danger, deux victimes d'une ordonnance de protection et un auteur faisait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, toujours selon l'étude.
Par ailleurs, non seulement le projet de loi de finances 2026 ne prévoit pas de crédits supplémentaires pour la lutte contre les féminicides, mais il contient une baisse de 47% des crédits des services de l'État dédiés à la politique d'égalité et de lutte contre les violences. Ce qu'a dénoncé la Fondation des femmes dans un communiqué. Le vendredi du coup 31 octobre. Ces violences conjugales ont bien évidemment un impact sur toute la famille, les enfants étant malheureusement les grands oubliés de ces actes inadmissibles.
Notre département n'échappe pas à cette insupportable réalité avec une augmentation des violences conjugales de 23,8% en 2024, affaires conjugales qui représentent 15% de l'ensemble des affaires pénales enregistrées en Lozère.
Le collectif Femmes Hommes 48 pour la troisième année reconduit son action départementale, une création citoyenne, un commerce engagé ensemble en Lozère, avec le soutien de la CCI. Cette année, la participation citoyenne a été conséquente, pas moins de 58 créations contre 21 en 2024 pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes ont été déposées lors d'ateliers collectifs à Balsièges, au Mont-Brac et Saint-Chély, à l'occasion d'un travail avec une classe de BTS communication de Notre-Dame-de-Mende et ou même émanant d'initiatives personnelles sur Merways ou Florac.
Ces affiches vont être proposées dès le 18 novembre aux commerçants-commerçantes de Lozère et aux autres lieux en affichage public du 25 novembre au 2 décembre pour sensibiliser largement à ce fléau de société. C'est ensemble, dès le plus jeune âge, qu'il faut apprendre à vivre dans le respect des différences pour faire avancer pour une réelle égalité femmes-hommes. Moment de Kali Uchis et Georgia Smith sur Radio Bartas, un morceau qui parle de l'importance de trouver un équilibre dans les relations amoureuses où personne ne cherche à prendre le contrôle sur l'autre ni à se comporter comme un tyran. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique Arboricole sur Radio Bartas. Je viens de la créer. Elle ressurgira peut-être dans cette émission de temps à autre, au gré des besoins et nécessités. Aujourd'hui, en tout cas, c'était nécessaire car ce week-end, c'est la fête de l'arbre dans la vallée française. Comme chaque année, le Ginestel, le foyer rural de Saint-Étienne-Vallée française, organise la fête de l'arbre, on s'engraine, un moment convivial qui met à l'honneur les plantations, l'échange, la production locale et propose des conférences et des ateliers pour approfondir la thématique arboricole annuelle. Et cette année, c'est l'olivier qui est mis à l'honneur. Joanne, la présidente du foyer rural, nous présente l'événement.
Donc la fête de l'arbre, c'est on s'engraine. Et on s'engraine tous les ans déjà depuis 5-6 ans. On s'engraine à l'automne et au printemps. Et à l'automne, ça se découpe en deux journées. La première journée, c'est toutes les conférences. Ça, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est le marché de pépiniéristes et des artisans.
Et pourquoi organiser une fête de l'arbre ?
Alors, il y a quelques années, nous avions une fête de l'arbre pas très loin de chez nous qui s'est arrêtée. Et on trouvait dommage de devoir faire énormément de kilomètres pour pouvoir avoir une fête de l'arbre. Et c'est comme ça que nous avons interpellé l'association Fruits Oubliés, puisque c'est donc un partenariat avec Fruits Oubliés, pour qu'ils fassent une fête des arbres avec nous sur Saint-Étienne-Vallée française. Et nous, on faisait déjà On s'engraine, qui était un échange de graines, un échange de plants qu'on faisait au printemps et à l'automne. Et du coup, on a gardé ce nom et on a grossi un petit peu. Voilà.
Et l'idée, c'est donc de partager des savoirs, des connaissances.
Exactement. C'est ça. Et du coup, chaque année, on change de thème. Du coup, cette année, c'est l'olivier. Et donc, le samedi, c'est donc les conférences. Et on réfléchit sur l'avenir économique, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec l'olivier dans les Cévennes. Et c'est en creusant un petit peu qu'on s'aperçoit qu'en fait, nous n'avons rien inventé. Nos anciens avaient déjà mis l'olivier sur les Cévennes, et du coup, nous avons fait des recherches historiques. Puis après, on regarde un petit peu comment ça se développe au niveau économique autour de nous, autour de l'olivier, ce qui est déjà fait, ce qui est possible de faire. Et après, on se pose ensemble avec les professionnels, les particuliers, les élus, sur ce thème. Et chaque année, on change de thème. Donc l'année dernière, c'était sur le châtaignier. Et ce qui est sorti, c'était le fait qu'il y avait besoin de faire des soins à la terre pour que nos châtaigniers survivent. Et on a regardé tout l'aspect historique avec les anciens aussi, de ce que faisaient les anciens et de ce que font plus les jeunes agriculteurs ou les particuliers.
Mais quand vous dites du point de vue économique, en fait, ce sont des réflexions, des ateliers qui s'adressent à ceux qui cultivent et qui vivent de la production de ces arbres ?
Oui, qui vivent de la production de ces arbres, mais aussi, par exemple, pour l'olivier, c'est bien particulier parce que l'olivier, on appelle ça des cultures familiales. Et du coup, vous avez le particulier qui a aussi quelques arbres, comment il fait pour pouvoir valoriser ses olives. Et en fait, dans la culture de l'olivier, ça a toujours été fait comme ça, c'est-à-dire que les particuliers vont récupérer leurs olives et vont les ramener à un moulin. Alors vous avez des moulins collectifs, vous avez plusieurs types de moulins, c'est aussi ça qui est mis en avant sur le fait que il y a des moulins collectifs, et ça permet de pouvoir valoriser son olivier ou ses oliviers de son jardin avec ses moulins.
Et alors, vous dites que vous avez fait des recherches autour de l'arbre mis à l'honneur cette année, l'olivier. Depuis quand est-ce qu'on cultive l'olivier en Cévennes ?
Eh bien alors, on est remonté jusque dans les années... Au-dessus de 1900, on n'a pas réussi à retrouver les écrits, mais on sait qu'ils y sont, parce qu'on le sait dans une transmission orale. Au niveau des écrits, nous, on est remonté jusqu'aux alentours de 1912, parce que du coup, il y a eu des demandes de subventions qui ont été faites pour les oliveraies. Et quand il y a eu le gel de 56, il y a eu beaucoup, beaucoup de destruction d'arbres. il y a eu des demandes de revalorisation et des demandes d'aide des agriculteurs déjà présents. Et c'est en creusant, justement, une particularité qu'on voulait mettre en avant, c'était de chercher les variétés qui avaient survécu à 56 et qui arrivent à supporter notre climat. Et du coup, nous avons fait des prélèvements pour avoir des analyses ADN des arbres qu'on a retrouvés. Et sur cela, on a fait des prélèvements pour savoir de quelle variété ils venaient et du coup, pour pouvoir les réimplanter sur notre territoire. En tout cas, guider les agriculteurs qui veulent s'installer ou qui veulent replanter ces arbres-là sur les variétés qui sont les plus à même à être sur notre territoire.
Et est-ce qu'il y a encore des moulins collectifs que vous évoquiez qui fonctionnent aujourd'hui ?
Vraiment proche de nous, non. Nous, on a beaucoup de ruines de moulins collectifs. Et du coup, si on est parti sur ce thème-là, c'est parce que aussi nous avons une volonté, il y a une volonté d'élus sur les villages aux alentours de vouloir faire un moulin à huile. Et ça, c'était une volonté il y a quelques années. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de pourquoi l'olivier, pourquoi un moulin ? Et est-ce que c'était pertinent ? Et il y avait donc une personne qui a étudié le terrain et qui s'est aperçue qu'il y avait pas loin de 800 arbres déjà sur la vallée française et calbertoise. Du coup, ça avait toute sa valeur de vouloir remonter un moulin à huile. Sinon, les moulins collectifs existent encore, mais un petit peu plus loin. Mais sur nos vallées, on avait pas loin d'une dizaine ou d'une quinzaine de moulins sur notre territoire.
Merci à Joanne de nous avoir présenté la fête de l'arbre On s'engraine. Ça se passe donc ce week-end, samedi et dimanche, de 9h30 à 17h et c'est à la salle polyvalente de Saint-Étienne, vallée française. Le samedi, c'est plus pour les professionnels et le dimanche, c'est plus tourné vers le grand public avec un marché de pépiniéristes et des ateliers pour les enfants. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site fruitsoubliés.com. Je mettrai le lien sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas.
حفني من هوا بعده ما عبى صدر ولا داء لسعة فراق برد في قلبي جيب لي معك قمر حافي وشمس غافية معك سلم طفحة بنجوم ومغلفة بخيوم جيب لي بسمة بكاس جيب لي ألف بكلة ياسميني مليانه ندى ورد بحضني قاعدة وجيب لي لضحكة علبي شجر مزهر على فستان حب مزروع بقوارة ريحة حارة جبلي معك مش تنسى تجيب ايديك يتمشوا بهدا عخدي وقبال بحر عمره ما انحبس نرمي على شطوط النفس والحضن تنساش الحضن وسيع بيحميني من الغرق جبلي معك صورة إلك تبقى معي وأبقى معك
Écoutez à l'instant le musicien palestinien Faraj Souleyman, pianiste de jazz, passé au chant sur son dernier album Mariam, sorti en janvier 2025. Le morceau qu'on vient d'entendre en est extrait. Il est traduit en anglais par le titre « A handful of air », une poignée d'air. Et ce sont les oliviers, vous l'aurez peut-être deviné, qui m'ont donné envie de faire entendre sur Radio Bartas ce musicien palestinien Faraj Souleyman. Olivier, dont j'ai aussi décidé de faire le sujet de la revue de presse que je vous propose tout de suite. Olivier, ces arbres symboles de la Palestine. On peut lire dans le journal québécois Le Devoir, dans un article du 8 novembre, le témoignage de Salah Abou Ali, qui récolte avec soin les fruits du plus vieil olivier de Cisjordanie occupé, pendant que dans le reste du territoire, la récolte des olives est balayée par les violences entre colons et palestiniens. Ce n'est pas un arbre ordinaire, il s'agit d'histoire, de civilisation, de symbole, déclare fièrement Salah Abou Ali, 52 ans, souriant derrière sa barbe épaisse dans son village d'Al-Waladja, au sud de Jérusalem. Des experts italiens et japonais ont estimé l'âge de l'arbre qui a survécu à des siècles de sécheresse et de conflits. Il aurait entre 3000 et 5500 ans. Il est devenu un symbole de la résistance palestinienne. L'olivier représente le peuple palestinien lui-même, enraciné dans cette terre depuis des milliers d'années, a déclaré le maire de Al-Waladja, Kader Al-Haraj, au journal québécois Le Devoir. Mais les oliviers et ceux qui les cultivent sont en danger, comme le rappelle le site de la RTS, la radio-télévision suisse. Dans un article publié le 23 octobre dernier, les autorités palestiniennes ont recensé au moins 150 attaques de colons israéliens contre des agriculteurs palestiniens en Cisjordanie depuis début octobre. Il y a par exemple Alaf Alia, une cultivatrice d'oliviers d'une cinquantaine d'années, qui a été internée à l'hôpital de Ramallah après avoir été assommée à coups de bâton par plusieurs assaillants cagoulés. Environ 20 000 oliviers ont été arrachés ou calcinés par les colons en 2025, rappelle la RTS. Jonathan, activiste israélien qui s'interpose chaque année à l'automne entre les colons et les agriculteurs palestiniens est démuni. Il témoigne toujours auprès de la RTS. Les années précédentes, j'aurais pu dire que cela faisait encore la différence. C'est très difficile de dire la même chose aujourd'hui, regrette-t-il. Une dizaine de ces activistes ont d'ailleurs été arrêtés mercredi dernier à Tourmous Haya par la police israélienne. L'enjeu est aussi économique, comme nous le rappelle un reportage de RFI du 12 novembre. En Cisjordanie occupée, 100 000 familles vivent de la production d'huile d'olive, un secteur qui peut rapporter jusqu'à 190 millions de dollars par an. Nahat Al-Aktash, producteur d'huile d'olive, témoigne au micro de RFI. Cette année, nous ne pourrons exporter que très peu d'olives. Peut-être que la production ne sera même pas suffisante pour la consommation locale. Une situation alarmante alors que l'économie de Cisjordanie est déjà asphyxiée par les sanctions et les mesures de rétorsion imposées par le gouvernement israélien. Une situation qui suscite un élan de solidarité internationale, comme le raconte le média en ligne Vert dans un article du 4 novembre. En octobre, des volontaires de différents pays ont prêté main forte aux paysans palestiniens qui risquent leur vie pour récolter des olives. 7 de ces volontaires étaient des agriculteurs, agricultrices français de la Confédération paysanne. 32 ont été arrêtés par l'armée israélienne puis expulsés, dont l'auteur de l'article de Vert. Au terme d'une journée de récolte collective, Fayez, un vieil homme palestinien qui complète sa retraite de professeur d'anglais en vendant chaque année les 1300 kilos d'olives qu'il tire de ses 400 oliviers, désigne le plus grand arbre de son champ. Cet olivier, c'est mon grand-père qui l'a planté il y a plus de 70 ans. Les plus petits ont été enracinés par mon père et moi. Les oliviers de Palestine ne meurent jamais.
Midi et des poussières.
Voilà, je mettrai les articles cités dans cette revue de presse en ligne sur la page de l'émission Midi et des poussières sur le site de Radio Bartas si vous voulez approfondir la question. Cette émission touche à sa fin. Léo, est-ce que tu veux nous refaire un petit point météo ? Ça pourrait devenir la météo de Léo sur Radio Bartas.
Ça pourrait devenir surtout un exemple de l'avancée de mes capacités d'improvisation en radio. Comment dire, aujourd'hui il fait meilleur qu'hier, il fait plus chaud, on s'écarte un peu petit à petit chaque jour des gelées du soir et du matin et de l'après-midi.
Eh bien, merci beaucoup. Restez bien à l'écoute sur le 107FM ou sur radiobartas.net. À 13h30, on va se retrouver pour les annonces. Mais d'abord, voici le programme de cet après-midi. À 14h, vous allez entendre Capharnaüm, une nouvelle émission proposée par Delphine. C'est une exploration d'un thème sous forme de playlist musicale avec des titres évocateurs de ce thème. Aujourd'hui, c'est la toute première émission et le thème, c'est vêtements et chaussures. C'est à 14h. À 16h, on vous propose la radio. ARA pour Assemblée Régionale des Radios Associatives, la Fédération des Radios Associatives de la région Occitanie. Ce sont donc des programmes concoctés par nos amis des radios locales voisines. À 20h ce soir, il y aura l'émission Impression Jazz, de la musique, du jazz. Mais avant tout ça, un nouveau programme qui s'appelle la parenthèse épistolaire. Et c'est une chronique proposée par Camille sous forme de lettre ouverte dans laquelle elle partage ses préoccupations du moment, ses pensées. On écoute tout de suite le premier épisode de la parenthèse épistolaire sur Radio Bartas.
La parenthèse épistolaire.
Mais je sais pas quoi raconter, je réponds tout à côté de ce courrier.
Une lettre ouverte sur le monde.
Cher monsieur tout le monde, vous qu'on ne voit jamais et qui court les rues, vous qu'on nomme ainsi sans réellement lire le nom inscrit sur votre boîte aux lettres par habitude de votre faciès commun, vous qu'on aime prendre en exemple pour ne pas citer Pierre, Paul ou Jacques quand l'expression nous paraît trop longue, je vous écris car je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais ces derniers temps, on aimerait bien se passer de tout. Et pourtant, tout passe avant qu'on puisse le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que Robert Redford aussi est passé, suivi de près par Claudia, la belle cardinale, la CC, produit italien de Tunis, d'une bébé brune et follement solaire, du genre qu'on aimerait avoir comme ami autour d'une table dimanche en nappe blanche. Je parle de la table, hein, pas de Claudia, quoique les plus chanceux ou les plus chanceuses pourront s'en souvenir intimement, avec une infinie douceur, comme un été indien sans indien, le genre de mot qu'on sort uniquement pour les grandes occasions, et y placer la fameuse aquarelle de Marie Laurencin. Je vous laisserai taper sur internet son nom. Pour en revenir à Claudia, dans le plus beau des clichés qu'on puisse avoir, vous, monsieur tout le monde, mais aussi moi, pourquoi pas manger à pleine bouche des spaghettis aussi longues que ses cheveux, aussi souples que vos songes, et y passer un coup de langue sur cette fameuse commissure acide, aux couleurs des sauces tomates, du rouge effronté de ce bambin lointain, boire du bon vin et finir à la sieste. Sauf que les siestes n'en finissent jamais avec l'âge. Quand les plaisirs sont bons, on les étire au soleil comme font les chats avec leur derrière rond sous votre nez. Claudia. Claudia comme le soleil. Parlons-en du soleil d'ailleurs. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Les figuiers se pavanent encore, mais personne n'a eu le temps de profiter de leurs figues. Toutes petites cette année, des figuettes, rikiki, une lichette de sucre, un plaisir qui n'atteint pas les papilles, l'éphémère de l'éphémère, qui étire le soleil comme une banane, l'étire de fatigue, l'assomme comme cette phrase interminable. Car monsieur tout le monde est du genre à filer la métaphore, à l'essorer quand elle est bien bonne. L'été nous a échappé. Il continue sa course ailleurs, peut-être même qu'il court aux côtés de Robert et de Claudia. Monsieur tout le monde s'appelle Robert et Claudia. Robert et Claudia étaient comme tout le monde, et comme tout le monde, je retourne me coucher, en attendant le prochain été.
Mais je sais pas quoi raconter, je réponds tout à côté de ce courrier.
Merci beaucoup Camille pour cette poétique parenthèse épistolaire. Et moi je vous dis à demain. À demain, on se retrouve à midi et des poussières. Bon après-midi sur Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière ces petites phrases que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.